potes, venez chez moi, y'a pas papa. Aidez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, liti diata, poupou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimper sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, où est les papas, où est les Diana, où est les Charlotte, où est les Didi, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à La Causerie, c'est dimanche 22-23h sur Radio Canu, au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et vous entendez donc Emma qui mange un bonbon. Salut Emma.
Salut.
Voilà, est-ce que tu veux nous refaire la blague?
Non, oui, ça
oui,
allait.
Vas-y, fais-nous la blague carambar quand même.
Quel est l'animal le plus à la mode?
Bah on le sait quand même.
Bah ouais. Alors, mais dites-le, ça m'aidera.
C'est la top modèle.
Ouais, voilà.
Super, voilà. Vous voyez, ça fait une heure qu'on se marre bien.
On a remonté le niveau. Et donc à la technique ce soir, c'est Jean-Yves.
C'est ça, bonsoir à toutes et à tous.
On a Clara qui est autour de la table aussi.
Bonsoir.
Et ma pomme que personne ne veut présenter, c'était donc Fab.
Et Fab au micro jaune.
Voilà. Et j'en profite pour vous rappeler qu'on a un mail, lacauseriecanu@gmail.com, le tout, tout bien attaché, bien écrit dans votre adresse, enfin votre machin à mail, là, voilà. Sinon, il y a un blog. Alors, c'est Emma ne peut pas vous le dire parce qu'elle est en train de manger un carambar, on ne peut pas tout faire.
Moi, je peux le dire.
Alors, vas-y, si toi, tu peux le dire.
C'est blog au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie.
C'est ça.
C'est
beau. C'est super.
Voilà.
N'hésite pas à partager ton avis, ton ressenti sur nos émissions.
Et à nous laisser des commentaires parce qu'on a vraiment l'impression que personne ne va sur ce blog. Ça nous rend triste.
À part nous-mêmes.
C'est ça pour les mises à jour.
On se réécoute. Voilà. Et ben ce soir, c'est une émission un petit peu qui va partir pas dans tous les sens, mais avec des sujets un peu différents les uns des autres, mais ça fait du bien de temps en temps. Et on va commencer avec Jean-Yves qui va nous rappeler que, ben en fait, le Parti Socialiste serait un parti, il paraît, de gauche.
Oh oui, très bonne introduction. Alors ben ouais, en fait je voulais vous parler de deux infos qui sont passées un petit peu inaperçues ou qui du moins n'ont pas retenu l'attention des grands éditorialistes de nos grands médias et qui en même temps, enfin les dernières semaines ont été riches d'informations quand même entre Marjorie qui est mort et donc on a dû tous pleurer.
Et Marjorie qui est mort. Est-ce qu'ils ont parlé de quoi d'autre en fait ces derniers temps?
Ben,
ah oui, et puis des méchants casseurs qui sont vilains pas beaux.
C'est ça. Ouais. Mais l'info est un peu plus ancienne. Donc cette première info en fait elle concerne la visite de Monsieur Hollande, donc notre cher président, d'une association, en fait. C'était à Clichy, c'était le 14 octobre, en fait. Et ça a été suivi d'une table ronde avec des assos de lutte contre la pauvreté. Et ça a été l'occasion aussi de dresser le bilan de l'application du plan de lutte contre la pauvreté. Donc c'est un an à ce petit plan de lutte contre la pauvreté.
Bon anniversaire.
C'est ça. Donc voilà. Et en fait, ça a été l'occasion, en fait, de cette table ronde, ça a été l'occasion pour monsieur le président de dire son regret de l'aggravation de la pauvreté. Quand même, c'est fort, je trouve. Et il a aussi déclaré, entre autres, alors là, je vais quand même un peu vous donner ce qu'il a déclaré, parce que je trouve que dans les déclarations, en fait, ça en dit beaucoup, et des fois, ça veut rien dire du tout non plus. Mais c'est toujours intéressant. Donc, ce qu'il disait, c'était « Les pauvres dans notre pays sont des citoyens, non pas comme les autres, mais à l'égal des autres. » Elle est belle, cette phrase, non? Je la trouve complètement vide. C'est bizarre, voilà. Ensuite, la... Pardon.
Ben non, mais c'est une phrase purement politique ou c'est un sophisme de
oui,
base.
Mais oui, parce voilà. Qu'enfin, ouais, je trouve ça assez terrible comme phrase. Mais ensuite, il a aussi déclaré « La solidarité n'est pas un supplément d'âme, n'est pas de la générosité, mais un principe républicain qui ne passe pas par l'État, mais par l'ensemble de la société française. » Il a aussi rétorqué à ceux qui, des fois, fustigent les pauvres « Si vous enviez la pauvreté, essayez-la et vous verrez. » Ça fait un peu jingle de pub, hein, vous pouvez pas. Voilà. Et en même temps, il est arrivé à dire aussi, écoutez bien, parce que je pense que c'est celle-là qui est la plus parlante, la fierté collective, c'est de permettre que nous puissions, non pas supprimer, éradiquer la pauvreté, mais faire en sorte que tous ceux qui sont loin puissent être ramenés, raccrochés, repris par l'action collective. Avant d'insister... C'est ça qui fait non pas seulement la dignité d'un individu, mais la fierté d'une nation.
C'était un discours de Warren Buffett, non?
Non, c'était...
Non, de François Hollande.
C'était François Hollande.
Parce que ça, c'est quand même une position clairement très à droite.
Et ben, alors moi, la question que je me pose, hein, parce que j'ai pas de réponse, c'est plus des questions que je me pose, c'est donc lutter contre la pauvreté, c'est donc une question de fierté. Voilà, de fierté nationale en plus, parce que la nation quand même... Hein, donc la nation, elle est toujours là, elle est, on la sent, la nation, vous la sentez la nation? Et donc voilà, il faut la sentir la nation en ce moment, c'est très tendance. Et donc, il ne s'agit donc pour M. Hollande pas de justice sociale, au sens politique, hein, au premier sens du mot politique, mais de fierté, peut-être de charité, je sais pas, c'est peut-être son côté judéo-chrétien qui revient au galop. Et donc il dit ça en fait, et ça ne dérange absolument personne.
Mais en fait, ça va à l'encontre même de la notion de socialisme.
Ben voilà, alors moi en fait, c'est un peu ce que je me suis dit. C'est que je me suis dit quand même, une personne qui soi-disant est de gauche, et qui déclare qu'il ne s'agit pas de lutter contre la pauvreté, mais plutôt de s'en accommoder, ben en fait, il ne remet pas en question la répartition des richesses. Parce que la pauvreté, soit on croit que c'est de la faute des pauvres... Soit, à un moment donné, c'est juste une histoire de répartition des richesses. Donc, c'est quand même un homme qui est au Parti Socialiste, hein, qui nous dit ça. Et justement, c'est ce que je me disais, c'est que le principe de gauche, de la pensée de gauche pour moi, c'est justement, c'est de remettre en question cette loi du plus fort ou cette loi qui sera naturelle des forts, des faibles, et des faibles, ce serait de leur faute. Et donc, voilà, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, moi, je ne me faisais pas d'illusions non plus. Attention, hein, je veux dire, je ne l'ai pas voté. je sais pourquoi. Mais quand même, je trouve toujours intéressant, c'est quand les gens, en fait, ils vous disent « Ouais, mais quand même, le PS, il est à gauche quand même. » Alors là, j'ai envie de leur dire « C'est quoi, en fait, être à gauche ?» Parce qu'à un moment donné, on fait quoi de cette déclaration? Est-ce qu'on se dit encore une fois que « Oh, il ne faut pas y faire attention, c'est des mots, c'est... » Enfin, à un moment donné, on va se baser sur quoi pour avoir un avis objectif sur nos politiciens, si ce n'est pas sur leur dire, ni sur leur action. Parce que le problème, c'est qu'avec le gouvernement qu'on a quand même en ce moment, en fait, son discours qu'il a donné est totalement en lien avec ses actions, quoi. C'est-à-dire, on tape sur les acquis sociaux, qui sont le fruit de lutte, on tape sur les chômeurs, on tape sur les précaires, et on s'accoquine avec le patronat, les possédants, les riches. Donc à un moment donné, moi j'aime bien demander à ceux qui sont persuadés encore qu'on est dans un pays dirigé soi-disant par des gens de gauche, jusqu'à quand en fait on va se mentir ?
Mais en fait ce qui est drôle pour moi, c'est que la phrase qu'il a dite, finalement, elle rejoint un penseur économique qui était Keynes, et qui n'était pas à gauche, hein, je vous le rappelle, il y a déjà 20 Keynes, c'était là, loin de là, qui était on va dire l'aile centre-droite, un peu droite américaine et anglaise. À l'époque où il officiait, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est drôle parce que Keynes disait en fait que si on raccroche les pauvres, parce qu'en plus il employait ce terme-là, si on raccroche un peu les pauvres, c'est exactement ce que Hollande a dit, ça évite les révoltes. C'est-à-dire que ça les maintient suffisamment à flot pour qu'ils aient quand même, ils puissent manger, mais qu'ils aient quand même peur de ne pas pouvoir manger le lendemain, qu'ils puissent se loger, mais qu'ils aient peur de perdre leur logement. Puis comme ça, ils ne se révoltent pas. Et c'est exactement la phrase qu'emploie Hollande, et je trouve ça magnifique parce que ça rejoint une idée, mais qui est clairement à droite et qui est clairement une idée, une vision, comme tu le dis, où on dit que les pauvres sont le fruit de leur propre malheur. C'est-à-dire, c'est pas l'économie qui fait que, c'est pas le système capitaliste. Non, c'est le pauvre qui choisit d'être pauvre et qui, s'il l'est, c'est de sa faute, quoi.
C'est ça le truc.
Et on est à des années-lumière du Parti Socialiste et du socialisme.
C'est un peu le truc, quoi. Donc, moi, après, c'est les dernières questions que je pourrais avoir. C'est est-ce que vous croyez que jouer à celles et ceux qui ne voient pas, en fait, est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça fera reculer le fascisme, hein, quand même, qui avance, hein? Et moi, je reste persuadé que le fascisme avance lorsque le social, mais dans le sens générique, enfin, le lien social, etc., il recule. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui, soi-disant, devrait être là pour créer du lien et faire du social, dans le sens réellement faire du lien, et qui, au final, ne sert que la soupe au fascisme, qui n'est que le fruit de la division, de la haine les uns contre les autres. Voilà. Et après, j'avais une dernière toute petite info que je voulais quand même raccrocher, parce que je trouve aussi ça... Il n'y a pas forcément un lien direct, mais je trouve que c'est toujours assez intéressant. C'est la deuxième info, donc elle concerne un baromètre qui a été publié le 28 octobre par Randstad. Une étude qui montre que la progression des...
C'était lit d'une manière très...
Randstad.
Ouais, je suis...
Pas Randstad.
Une étude qui montre, que la progression des salaires, en fait, ne cesse de fléchir. Cette étude nous parle de la rémunération des non-cadres, qui représente quand même 82% de la population active salariée, ce qui fait à peu près 18,8 millions de personnes en 2013 selon l'INSEE. Et donc en 2014, le salaire moyen de ces 18,8 millions de salariés non cadres du pays s'élève à 1500 euros bruts mensuels, soit à peine 6,6% de plus que le salaire minimum, qu'on appelle aussi salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui lui est de 1445 euros. Enfin bon, c'est... Alors, et en même temps, ce que je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir un peu le salaire des cadres, qui ne sont que donc 18% hein, de la population de ceux qui travaillent. Et alors eux, le salaire annuel moyen d'un cadre atteint 54 800 euros brut, hein, bien évidemment, par an, ce qui fait à peu près 4 500 euros par mois. Voilà. Donc c'est... On peut y voir un lien ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir que la majorité des travailleurs sont plus proches de la précarité qu'autre chose. Parce que honnêtement, 1500 euros, quand tu bosses, c'est juste du vol, quoi. À un moment donné, c'est du vol. Et à côté de ça, on entretient une petite caste, parce qu'elle sert bien à ça, la caste des cadres, qui sert de soupape entre le patronat et les salariés en bas. Alors, on va me dire que je divise les travailleurs. Mais un cadre divise le travail et les travailleurs sans aucune aide. Il n'a pas besoin de mon aide. Je les ai déjà vus à l'action. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant justement de voir cette petite caste qu'on chouchoute quand même à 4005 boules par mois. C'est un bon salaire, je trouve.
À nuancer par le fait que c'est un salaire moyen et qu'il y a les cadres dirigeants dans les cadres.
Oui, c'est les cadres supérieurs.
Donc voilà. Mais c'est juste, c'est juste ma nuance.
Non, mais le cadre n'est pas forcément un dirigeant. Il y a des gens.
Ouais.
Je connais beaucoup de cadres qui sont très loin de ce salaire et qui ont.
Alors justement, après, il y avait un distinguo à faire aussi entre les cadres des grandes entreprises et des petites entreprises, oui. Où les salaires sont franchement loin les uns des autres. Mais je trouve quand même intéressant que la majorité, 82% qui créent la richesse, merde, c'est eux qui créent la richesse aussi. Et ben au final, ils s'en tirent avec des clopinette, quoi. Enfin, 1500 boules, c'est rien, quoi.
C'est toujours le diviser pour mieux régner, de toute façon. Enfin, quand t'as une période de compression, comme on dit, on appelle ça la crise. J'aime bien, ça me fait rire, les mots crise. Non, mais ça fait une période de compression. En fait, c'est simplement qu'on arrive à une période où, en fait, la croissance n'existe plus et elle n'existera plus. Et le capitalisme vivait sur la croissance. Et aujourd'hui, on arrive sur une période où en réalité, la croissance n'est plus possible. Mais ne serait-ce que parce qu'on peut pas démultiplier à l'infini les biens, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et qu'on arrive à un moment donné où ça bloque. Et comme ça bloque, et bah, du coup, on comprime. Et quand on comprime, en fait, on crée des divergences dans le monde de l'entreprise. Parce que ça aide. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle les capots du capital. Je suis désolé, je reprends des termes un peu violents, mais je fais mon Bakounine de base. Mais on va créer des gens qui, en fait, vont être là pour, qui vont incarner, en fait, la première étape de colère, c'est-à-dire on va se retourner contre eux plutôt que contre le capitalisme. Enfin, c'est des pare-feux, quoi. Mais je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis juste que c'est symptomatique qu'aujourd'hui, enfin pour moi si c'est pas très bien, mais déjà c'est symptomatique qu'aujourd'hui on est dans cette période-là et qu'on crée justement, on est en train de subdiviser et de créer vraiment une partie des salariés qui vont vers un extrême pauvreté, une partie des cadres, et pas tous, mais plutôt les cadres qui encadrent, c'est-à-dire qui ont des managers, en fait.
Oui.
Qui vont se retrouver plutôt privilégiés au sein de l'entreprise, parce que ça va servir en fait à détourner aussi la colère à un moment donné, parce que c'est ça qu'il y a derrière, c'est que c'est pensé, c'est un jeu, et qu'à un moment donné ça évite comme ça que l'ouvrier de base, il se retourne contre le patron, il va plutôt se retourner contre son chef haillon N+1, pardon pour les termes, mais plutôt que contre le patron, et il va plutôt diriger sa colère en fait au plus près et au plus court. Mais je dis pas que c'est que, voilà, simplement moi je dis juste que ça oblige les gens qui sont dans une position de privilège au sein des entreprises, c'est-à-dire les gens qui gagnent bien leur vie, et ça c'est valable à tous les niveaux, hein. Ça peut être valable si vous êtes même un salarié lambda d'une boîte à côté d'une personne qui fait le ménage et que vous gagnez quasiment trois fois ce qu'elle gagne, ça rentre aussi dans cet esprit-là, de vous interroger et de vous remettre en question, parce que le problème c'est ça, c'est que c'est que par la remise en question individuelle et à un moment donné personnelle que vous arriverez à comprendre que vous êtes dans une caste privilégiée. Et c'est ça le truc. Et que pour sortir de cette caste-là, il faut à un moment donné vous rendre compte des choses et prendre le pas de recul ou le pas de côté nécessaire. Voilà, pardon, c'était un petit peu chiant ce que j'ai dit.
Non, c'était formidable.
Non, mais
j'entends bien sur le truc des privilèges. Sauf que moi, personnellement, alors je pars de mon expérience encore une fois, hein, des cadres dirigeants qui remettent en question leur position de pouvoir et de...
Je parle pas des cadres dirigeants, moi je parle vraiment des cadres encadrants, c'est-à-dire les personnes qui vont être managers dans une entreprise. N+1, N+2, N+3.
Voilà. Ouais, mais moi je...
Enfin, mais j'en ai pas connu beaucoup plus qui étaient sympas.
Non, mais c'est pas ça, c'est juste... Après, sur le truc, sur l'idée de la hiérarchisation des choses, le truc c'est quand un flic il tape sur les gens, moi j'ai envie de désinguer le flic et le préfet.
Oui.
Donc, pour moi ça reste un exécutif et tu décides et tu choisis à un moment donné, quand tu es dans ce niveau-là d'études et de rémunération, tu décides quand même à un moment donné de l'accepter, d'exécuter.
Ben on est d'accord, mais moi le jour où le flic il pose son flingue et il se met de mon côté, je suis pas en désaccord, c'est qu'il a compris qu'il n'était pas du bon côté de la barrière. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire.
C'est ça.
Mais je dis pas que ça arrivera demain. Non mais je veux dire si le flic te laisse aller voir le préfet en posant son flingue et en disant t'as raison, c'est lui qui a donné l'ordre et c'est pour ça que c'est arrivé, pas celui qui a tué, je parle pas de ça, je parle du flic qui vraiment était censé te dire bah oui t'as raison, pose son flingue et te dit vas-y passe, il est passé de ton côté. Donc à ce moment-là, ça se pose plus de la même façon. C'est ça la remise en question individuelle.
Effectivement, ça changera la donne.
Bah oui.
J'attends que ça change.
Moi aussi.
Après, je sais pas si vous aviez encore des trucs ou pas.
Non, c'était long ce que j'ai dit en plus.
Bon bah j'ai plombé la soirée. Alors on passe.
Non, musique.
Alors on passe un peu de zik.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000, travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4 000, il en impose dans les couloirs parfaitement corporate. Un bel exemple de réussite, monsieur s'est fait tout seul, a bien placé ses billes et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs son histoire préférée. Monsieur a l'arrogance des nouveaux riches, mais dans son nouveau milieu, ça passe bien. Ça passe pour de l'ambition, il n'y a rien de mal à ça, oh non, bien au contraire. Monsieur Flambe a le teint allé en toute saison, il a la forme et s'entraîne au meilleur club de la ville. 30 000 à l'année, hors frais de fonctionnement, il en est actionnaire et voit ça comme une petite consécration. Vêtue d'un tailleur de marque italienne, 6 000, madame quant à elle ne travaille pas, mais madame est débordée. La bonne s'occupe des gosses, fait à bouffer, le service et le ménage, mais madame ne s'en sort toujours pas. Faut dire que la maison est grande et madame doit la meubler. Madame peine avec la styliste que lui a conseillé sa chère voisine au gala de bienfaisance d'une marque d'ordinateur leader sur le marché. 20 000. Le soir, une fois rentrée du travail, la tête pleine de réunions et de repas d'affaires harassants, pleine de cruciales décisions à prendre et de chiffres colossaux en jeu, monsieur retrouve madame. Les enfants ont fait leurs devoirs et sont couchés, il est 21h, monsieur se sert un verre et veut se détendre. Comme d'habitude, il passe au petit salon, mais fait tomber son verre en chemin. Au bruit du verre cassé sur le marbre d'Italie, la soubrette, qui sent, et c'est un bon prix, sort aussitôt de la cuisine pour nettoyer ça rapidement et retourne à sa place, ni vu ni connu. À cet instant précis, il dit avec satisfaction à sa douce moitié siliconée en lui tapant les fesses. T'as vu que j'avais raison, les Éthiopiennes c'est une affaire, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est efficace. Vulgarité, ne dis jamais fils de pute. Enculé ta race ou va niquer ta mère. La vraie vulgarité ne tient pas à ce vocabulaire. Elle se cache derrière de belles familles, de belles carrières, de sourires hypocrites et de bonnes manières. Tu la reconnais au ton condescendant. La vraie vulgarité se lâche comme ça, en plaisantant. Elle croit que tout lui est dû, que tout s'achète. L'argent et le pouvoir lui sont montés à la tête. Elle fait son beurre sans scrupule dans la misère. La vraie vulgarité sait comment s'en satisfaire. Vénale, sans complexe, elle s'étale, dégueulasse. Elle a ce mépris de classe qui fait mal. Elle est vicieuse, vieux, elle est sournoise. La vraie vulgarité, elle est bourgeoise.
Et on est de retour dans la causerie sur l'antenne de Radio Canu 102.2 à Lyon et sur radiocanu.org partout ailleurs. On vient de s'écouter La Canaille avec le titre Madame Monsieur. Et j'allais apporter une petite précision quand même. C'était que sur concernant l'enquête sur les salaires des cadres, je vais quand même l'apporter. En fait, c'est une enquête qui est effectuée chaque année par l'Association pour l'emploi des cadres, appelée aussi APEC. Voilà pour la précision. Ensuite,
c'est moi après.
C'est ça.
Et puis tu dis partout ailleurs, c'est pas vrai, parce qu'en Corée du Nord ils peuvent pas nous recevoir. Et du coup, ça me permet d'introduire mon propre. Je me fais mon auto-introduction, excusez-moi.
C'est ça, introduis-toi.
Ouais, non, moi je voulais vous parler d'un sujet dont j'ai pas parlé depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé d'environnement dans la causerie, et ça me tient un peu à cœur, donc ça tombe bien. Et là, en fait, il y a 3 études scientifiques qui viennent de sortir coup sur coup. Alors j'ai appelé ma chronique Réchauffement à 40 ans. Et vous allez comprendre pourquoi.
Rien à voir avec les prémices.
La crise de la quarantaine.
Non, rien à voir avec ça. En fait, c'est qu'il y a 3 études scientifiques qui sont concordantes, qui en fait, sont venues tirer la sonnette d'alarme. C'est qu'en fait, on a oublié une variable dans la mesure de tout ce qui était dérèglement climatique et réchauffement climatique, c'est la variable d'entropie atmosphérique. Alors, je vais essayer de vous expliquer.
Quoi qu'est-ce l'entropie ?
Voilà. Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, en fait, vous savez que depuis maintenant l'ère industrielle et notamment depuis les années 70 où on a augmenté la production industrielle de façon exponentielle chaque année, enfin voilà, on multiplie par 2 quasiment la production industrielle depuis les années 70, jusqu'aux années 90, et après on stagne quand même, sinon on serait vraiment très très loin. Mais en gros, on rejette de plus en plus de gaz à effet de serre, c'est-à-dire c'est tout ce qui est CO2, méthane, fluoré et tout un tas de petits gaz comme ça qu'on envoie dans l'atmosphère. Et le principe de l'effet de serre, bah, vous l'avez tous déjà observé chez vous, hein, c'est vous mettez un verre au soleil, vous retournez le verre vous le mettez à l'envers sur la table. Vous mettez quelque chose dedans, il finit par sécher parce qu'il fait très très chaud très vite. Et ben c'est ça l'effet de serre, c'est-à-dire qu'en fait vous retenez les rayons du soleil à l'intérieur de quelque chose, ou c'est ce qu'on voit aussi au bord des champs, hein, c'est-à-dire c'est les serres, bah c'est exactement ça. Donc voilà, et en fait ces gaz-là, et ben ils ont un petit peu le rôle du verre ou du plastique sur les serres que vous voyez dans les champs, c'est qu'il retient en fait une partie des rayonnements solaires. Donc en fait, il les fait rebondir, et ce qui fait que ça réchauffe l'atmosphère plus vite, et l'atmosphère générale se réchauffe. Sauf qu'en fait, jusqu'à maintenant, on partait un peu du principe, dans les médias et dans nos têtes à nous, en fait, en général, que chaque année, en fait, on apportait un peu plus de gaz à effet de serre, et que donc, du coup, chaque année, on voyait immédiatement l'effet de cet effet de serre. C'est-à-dire qu'on disait, bah là, on a envoyé 10% de gaz, de CO2 ou autre en plus, et donc, il va faire un petit peu plus chaud l'année prochaine, c'est normal. Sauf qu'en fait, ils ont étudié un petit peu tout ça, notamment par des carottages de glace au niveau du pôle Nord, et aussi par la révision d'un modèle qu'ils avaient mis en place dans les années 90, qui était un modèle de prévision météorologique, et là ils se sont rendus compte que ils tombaient pas juste avec ce modèle-là, mais ils ont cherché pourquoi. C'est-à-dire que vous savez, quand on fait une erreur, on reprend, on recule, on essaie de trouver où on a fait l'erreur, et ils ont découvert en fait que l'erreur, c'est cette fameuse entropie. Et l'entropie, c'est simplement le temps que prend quelque chose pour arriver à son état stable. C'est ça que ça veut dire l'entropie. Donc en fait, en réalité, le CO2 que vous renvoyez maintenant, en réalité, ça met 40 ans pour avoir un effet sur la planète. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de prendre un petit peu le truc à l'envers pour essayer de l'expliquer. Je me suis lancé dans un truc, là, je vais galérer à essayer de me suivre. Voilà. C'est qu'en fait, vous avez remarqué que chaque année, vous avez des saisons. Et parce que la planète Terre bouge, parce que la planète Terre bouge sur un axe et tourne sur elle-même. Et c'est en fait tout ça, c'est ce qu'on appelle les variations cycliques, c'est-à-dire que la Terre, elle est plus ou moins exposée au Soleil, elle n'est pas tout le temps au même endroit exposée au Soleil, elle n'est pas tout le temps de la même façon exposée au Soleil. C'est pour ça qu'on a des saisons, une saisonnalité. Et en fait, en reprenant en fait ce cycle-là, ces scientifiques ils se sont rendus compte que c'est ces cycles-là qui expliquent l'entropie. C'est-à-dire qu'en fait, comme par exemple les saisons chaudes ne sont pas au même endroit sur la planète en même temps, c'est-à-dire que c'est l'hiver au nord et c'est l'été au sud, ça fait qu'il y a une espèce de régulation thermique qui se produit par un échange de température, simplement parce que l'atmosphère elle n'est pas par pays, elle se balade, mais du coup ça se mélange et du coup ça fait une espèce de régulation qu'il n'avait pas imaginé aussi importante dans le ralentissement entre guillemets de l'effet de serre. Mais je mets bien des guillemets parce qu'en réalité ça ne le ralentit pas, c'est juste qu'en fait on n'avait jamais mesuré quelle était la durée de l'entropie de la planète. Mmh. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous envoyez un ppm, donc une partie par million de CO2 en plus dans l'atmosphère, il faut environ 40 ans pour qu'on commence à en percevoir les effets. Ça veut donc dire, pour être tout simple, que le délai qui permet les dérèglements qu'on voit aujourd'hui sont en fait le fruit des années 70-80 et pas le fruit de l'année dernière. Est-ce que vous voyez ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un dérèglement climatique qui n'est pas lié à tout ce que vous avez renvoyé entre les années 80 et les années 2014, mais qui est lié uniquement à ce qu'on avait à peu près envoyé dans les années 80. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu compliqué à imaginer, mais voilà. C'est-à-dire que ça va continuer à se dérégler, à se réchauffer, mais avec toujours ce petit décalage de 30 à 40 ans. Voilà, ça va?
Moi ça me semble assez logique.
Ouais, non mais c'est voilà.
Et donc la machine
Donc ce qui est intéressant, c'est que ce délai, ce qu'ils ont appelé le délai anthropique, ça permet en fait aux climato-sceptiques de laisser entendre que en fait, il y a strictement rien qui se passe et que tout va bien. Parce que ils disent vous voyez les catastrophistes, il se passe rien de spécial, on n'a pas encore vu tout ce que vous dites qui allait arriver, le GIEC qui raconte n'importe quoi. Moi je roule avec ma voiture et je vois bien que ça fait strictement rien. Enfin vous voyez, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, en réalité, les scientifiques, dans une des trois études, ils ont essayé de lister un petit peu ce qui était un peu nouveau au niveau de l'échelle humaine. Alors, c'est pas compliqué, pour prendre quelque chose de nouveau sur l'échelle humaine, vous prenez une génération, soit 25 ans, et vous faites un bilan des 25 ans avant, 25 ans après. C'est-à-dire, vous prenez une date et vous faites 25 ans avant, 25 ans après, et vous regardez s'il y a une différence significative en termes d'impact sur l'environnement ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont tout simplement pris 2010. Donc, ils ont fait 25 ans avant 2010 et 50 ans avant 2010. C'est-à-dire comme ça, ça permet de faire un panel sur 50 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les typhons ou les cyclones, et que les pluies aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant plu violemment sur la Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plus de volume, mais c'est plus rapproché et plus violent. Ils ont noté qu'il y avait un ralentissement des courants marins. Donc, c'est-à-dire en fait le Gulf Stream, El Niño, El Niña, enfin c'est les grands courants qu'on connaît qui sont régulateurs en fait en termes notamment de température,
ouais,
de climat. Et en fait ils se sont ralentis. En fait ils l'expliquent simplement parce qu'il y a de plus en plus d'eau douce qui sont envoyées dans la mer parce qu'en fait les glaçons fondent au niveau des pôles et que du coup ça fait des volumes d'eau douce très importants qui comme c'est pas de l'eau salée a pas la même densité que l'eau salée et ralentit le courant marin. Ils ont remarqué que les océans et les mers n'ont jamais été aussi chaudes que depuis 2010. C'est-à-dire qu'en 2010, les océans et les mers étaient la température la plus chaude connue depuis qu'on mesure la température des mers. Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais la température moyenne, on parle toujours. Et en 2014, on a explosé le record.
C'est pas une question piège, mais on l'apprend depuis quand, en fait, la température?
On l'apprend, mais je le sais, donc je veux te le dire. On mesure la température des mers, notamment de la Méditerranée, depuis 1910.
D'accord.
Donc ça laisse quand même, ça fait quand même quasiment un siècle de recul, sachant que c'est sur des points fixes, donc ça permet, on prend la température toujours au même endroit et on fait des moyennes. Je l'avais pas noté, mais je savais que tu me poserais la question. Et surtout, ils ont noté quelque chose qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, dans les 25 dernières années avant 2010, la plupart des saisons ont été décalées, voire déréglées. C'est-à-dire qu'on a eu des hivers chauds, des étés froids, des automnes qui en finissaient pas, des fois on passait quasiment de l'été à l'hiver, c'est un peu ce qui va se passer là d'ailleurs cette année aussi, et ça c'est assez nouveau, et ça c'est notamment sur le climat continental, parce qu'ils disent que c'est là que ça s'observe le plus, parce que par exemple ils expliquaient que si vous allez au Québec, Emma pourra le confirmer, je pense, il y a ce qu'ils appellent le phénomène d'été indien qui est connu depuis très longtemps, où il y a une période de froid, puis il y a de nouveau du chaud, puis d'un coup du froid, et ça c'est lié en fait au Gulf Stream, c'est parce qu'en fait le Gulf Stream a une période, ce qu'ils appellent un hoquet, et je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà. Et ce qui fait qu'il y a une bulle d'air chaud qui généralement remonte vers le Canada à un moment donné. Et en fait, ça s'observait qu'au Canada jusqu'à maintenant. Sauf qu'en fait, ce phénomène-là commence à s'observer sur toute la ligne, sur toute la longitude. Attendez, c'est latitude, je ne sais plus. Enfin bref, sur toute la ligne, vous prenez Montréal, puis vous faites une ligne autour de la Terre, je ne me rappelle plus ce que c'est, comment on appelle ça. Et ça s'observe, c'est la latitude ou la longitude, je ne sais jamais. Donc voilà.
Longitude,
merci Clara. Et donc ça s'observe sur toute la longitude à hauteur de Montréal. Et ça c'est assez surprenant parce que du coup ça veut dire que le Gulf Stream n'a plus du tout le même effet protecteur que dans les années passées. Parce que c'est que le Gulf Stream en gros qui expliquerait cette variabilité, cette variation là. Donc voilà, et surtout ils ont observé quelque chose, alors ça ils sont alliés à des zoologues, c'est qu'il y a une migration des espèces extrêmement rapide et importante dans les 25 dernières années. Alors il y a deux exemples que j'ai trouvé dans l'étude et qui sont intéressants, c'est que les cigales sont arrivées en région lyonnaise. Et ça, c'est très étonnant, parce qu'en fait, il faut entre 9 et 17 ans à une cigale pour éclore, donc ça veut dire qu'elles ont commencé à monter bien avant, parce qu'elles vivent sous terre avant de sortir pour faire tchit-tchit-tchit. Donc, du coup, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'elles commençaient à remonter, et donc ça fait un petit moment que ça se réchauffe en réalité, contrairement à ce qu'on croit. Et surtout, ils ont noté une deuxième chose, c'est qu'ils ont vu l'apparition de scorpions, les fameux scorpions d'Ardèche, dans les zones de Lyon aussi, c'est-à-dire que dans les campagnes lyonnaises, on voit apparaître des scorpions, et pour que le scorpions survivent, ça veut dire que les hivers sont de moins en moins froids, parce que le scorpion ne supporte pas les hivers froids. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que ça corrobore leur étude. C'est-à-dire que l'étude qu'ils ont faite sur la temporalité, et finalement, elle est corroborée, y compris par les espèces qui viennent à migrer. Parce que si les espèces arrivent à migrer, c'est que ça se réchauffe petit à petit et que ça finit par se voir. Et donc ça veut donc dire que aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, est dépendant de ce qu'on a fait hier, et hier au passé, vraiment 30-40 ans en arrière. Alors c'est inquiétant parce qu'il faut savoir que depuis les années 70, on n'arrête pas de rejeter systématiquement de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, de gaz à effet de serre, et que donc du coup, ben, on risque de laisser à nos enfants et aux générations futures un climat assez déréglé, voire un peu chaotique. Alors, il y a un truc qui s'appelle le GIEC, on en pense qu'on en veut, mais eux, ils font des études sur jusqu'à quand on peut estimer que l'humanité va vivre sereinement. Alors au départ, ils disaient il faut pas réchauffer la Terre à plus de 2 degrés, parce que sinon après on va plus pouvoir vivre sereinement. Puis sous la pression des politiques, ils ont commencé à dire plus 3, parce que bon, ils se sont bien rendus compte qu'on n'arriverait pas à faire plus 2. Et en fait le problème c'est que là, vu le scénario qui se profile, on va plutôt vers un plus 6 degrés en moyenne que vers un plus 3. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une zone où personne aujourd'hui, aucun scientifique n'est capable de prévoir comment le temps va se mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, ou un peu flippant, c'est que la planète ne peut rester viable pour l'humanité que si elle permet l'agriculture et l'accès à l'eau potable. Très clairement, c'est les deux choses dont a besoin l'humanité pour survivre de prime abord. C'est pas l'iPhone 6, non.
Ah, c'est pas le dollar non plus.
Non, le dollar non plus, ça se mange pas. Enfin, même en sauce. D'accord, donc, merci. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces scientifiques tirent la sonnette d'alarme en disant attention, vu la vitesse à laquelle on va, aujourd'hui, on risque d'avoir une planète qui ne sera pas viable pour les générations futures, parce que qui dit des très très fortes pluies dit destruction des récoltes. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des pénuries de nourriture. Qui dit variation climatique forte, ça veut dire que vous pouvez avoir d'un seul coup en été une vague de froid ou d'un seul coup une vague de chaud qui se remet d'un coup. Et donc ça, c'est pareil pour les récoltes, c'est mortel. Donc il dit il y a un réel problème et il faut agir très vite. Alors je vous rassure, en 2015, la France va recevoir une conférence climat hein, avec 193 délégués. Et donc tout va bien se passer parce qu'on va se mettre autour de la table et puis on va trouver des solutions viables, un peu comme on avait fait à Copenhague. Ah oui, non, en fait, on va rien trouver du tout parce qu'à Copenhague, on n'avait rien fait. Donc on repart pour faire encore un truc où on fera rien. Alors les scientifiques, ils ont quand même posé des bases. Ils disent, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut arriver à freiner un peu le truc, il faut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre immédiatement.
C'est pas
dans les 20 ans, c'est qu'il faut commencer maintenant et il faut que 2-3 ans on ait trouvé une solution pour diminuer de 80%.
Ouais, mais je veux dire, non, on a des voitures hybrides.
Voilà, mais alors ce qu'ils disent bien, c'est qu'attention, c'est que si on ne fait pas ça, ça veut dire que si on arrivait à faire ça, on aurait quand même une augmentation à plus 3 degrés en 2100. Ça ne veut pas dire qu'on arriverait à revenir à un état stable. Alors, c'est plus 3 degrés par rapport aux températures de 1990, qui étaient déjà elles-mêmes déréglées, hein, qui étaient déjà plus hautes. Bref. Et ils disent aussi qu'il faut se préparer aux catastrophes, c'est-à-dire qu'il faut créer des unités qui puissent intervenir très rapidement et faire très rapidement les choses. Ils disent qu'il faut se préparer à un plan de partage équitable des ressources existantes. Parce que pour eux, ils disent que la première chose qui va se produire, ce sont des grandes famines. Parce qu'à partir du moment où vous avez des zones totales détruites, ben forcément, les gens vont crever de faim. Et que si on ne prépare pas dès maintenant la capacité de partage, hein, tout simplement, ben on va avoir des gens qui vont commencer à vouloir juste migrer pour manger. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent les déplacés climatiques, ce qui existe déjà aujourd'hui.
Ouais,
sauf qu'eux, alors je ne l'ai pas noté, mais je crois de mémoire sur 1 à 2 milliards de déplacés climatiques dans les années qui viennent d'ici 2100, c'est énorme, c'est-à-dire c'est la population de l'Afrique hein, par exemple pour se rendre compte.
Ouais, mais attendez, moi je veux rassurer tout le monde, on est en France, on est en Europe, il y aura Frontex, on aura des militaires à toutes les frontières, et on sera tranquille, alors, hein, vraiment, tout ira bien pour nous, rassurez-vous.
Tu crois pas si bien dire, parce que eux ils disent qu'il faut aussi revoir notre modèle de commerce, de consommation et d'agriculture. C'est-à-dire qu'ils disent que l'idée de faire fabriquer son t-shirt à l'autre bout du monde et de le ramener en bateau ou en avion, c'est stupide, et que ça n'est que générateur de gaz à effet de serre, et qu'il vaut mieux faire des micro-ateliers dans chaque pays ou des ateliers dans chaque pays. Alors c'est drôle parce qu'en fait, il y a une critique américaine qui a dit qu'au final, ce qu'ils proposaient, c'était de sortir du capitalisme, en fait. Et en fait, il y a plusieurs scientifiques qui ont répondu qu'en fait, ouais, quoi. Parce que le cœur du problème, c'était ça, c'était avec la notion de capitalisme qui ne prend pas en compte le bien-être humain et qui ne prend en compte que le profit, et que donc, à un moment donné, oui, ça veut dire qu'il faudra sortir du capitalisme tel qu'on le connaît, ou, ils ne se prononçaient pas trop sur le truc, mais qu'elle disait, oui, c'est le cœur du problème. Alors moi je voulais finir en disant qu'on est quand même un petit peu mal barré, parce que si on avait voulu que ça se passe bien, on aurait déjà commencé, hein, puis comme on n'a pas commencé. Et d'ailleurs on voit tellement qu'on prend les choses à cœur qu'on est en train de dire qu'on va remplacer les trains par des bus. une excellente idée. Voilà.
Mais des bus de la SNCF.
Voilà. Non, mais vous voyez, on voit bien le côté surréaliste, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où on devrait s'interroger sur la diminution et on propose des trucs comme ça qui sont aberrants. On n'impose pas aux industries lourdes d'envoyer moins de CO2, on n'impose pas de trouver de solutions pour fabriquer autrement et surtout, on délocalise notre pollution, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas en Europe, on le fait faire en Chine ou en Inde, mais l'atmosphère n'a pas de frontières, elle s'en fout. Le CO2 qui sort de Chine, d'Inde ou d'Europe, il sort, donc elle s'en tape.
Oui, voilà. Mais ça permettra toujours à ces gentils petits occidentaux
De dire que c'est la faute des Chinois.
C'est de la faute des pauvres.
Ouais, sauf qu'aujourd'hui, la Chine produit à 80% pour exporter, donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où, quand il y a des militants, et je vais pas faire un truc facile en rappelant la mort de Rémi Fraisse sur le barrage, parce que c'est pas du tout mon propos, et j'avais pensé à faire ce sujet avant ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui se battent globalement, généralement, je pense à Notre-Dame-des-Landes, à des choses comme ça, et aussi à Sao Paulo, au Brésil, où il y a des très fortes luttes pour sauver des forêts, en Turquie aussi, où il y avait le parc Gezi, où ils voulaient juste sauver des espaces naturels, et ces gens se font gazer, tabasser en permanence, et surtout avec l'assentiment de la population, parce que personne ne réagit, et alors que juste ces personnes veulent avoir un avenir, non pas pour eux, mais pour les générations futures. C'est une vision à long terme, c'est pas une vision à court terme, c'est une vision où les gens se disent, moi je veux que dans 50 ans, les gamins que j'aurai, ou les gamins que je connais, ils puissent vivre sereinement. Et aujourd'hui, on les regarde avec un petit sourire, en les traitant de casseurs, d'anarchos, je sais pas quoi, de terroristes, je sais pas quoi, sauf que c'est juste des gens qui se battent pour l'avenir. C'est-à-dire que c'est un peu rare aujourd'hui. Et je me dis, quand on est dans ce climat-là, forcément, ça va pas aller très 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 bien, quoi. Et là, je vais revenir à ce que je disais sur la chronique de Jean-Yves. Je disais qu'en fait, il faut effectivement qu'il y ait des choses qui soient tournées vers les gros industriels, machin et tout, ça c'est clair. Mais c'est aussi une prise en compte et une prise... une remise en question personnelle. Parce qu'en fait, nos accords, nos choix ont aussi un impact. Alors je suis pas en train de dire que tout se vaut, loin de là, parce que je pense que c'est les premiers trucs à taper, c'est l'industrie, et qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix. Mais aussi faire des choix un peu cohérents à notre niveau, et que on peut pas se permettre tout le temps de dire, ouais mais bon, là je peux parce que, ou là je veux parce que, non, à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on participe un petit peu au truc. Et ça me rappelle une fable qu'il y avait hier sur des termites, parce qu'on a vu un super truc avec Pistil d'Ardéchois, il disait que les termites rongent toutes une charpente, mais quand tout le monde ronge un peu, qui c'est qu'on accuse, quoi, en fait. Et c'est un petit peu l'image que je trouvais assez cool, de dire, voilà, il y a un moment donné, ça veut pas dire qu'on ronge tous de la même façon, ça veut pas dire que, mais ça veut dire qu'on doit tous s'interroger et tous se poser des questions. Voilà, je voulais juste parler de ça, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir qu'il y a encore des gens, des scientifiques qui arrivent à dire... qui arrive à la conclusion que le cœur du problème c'est le capitalisme, et ça m'a fait quand même sourire, parce que c'est quand même pas des gens qui sont réputés pour être super révolutionnaires en général, et d'ailleurs même la personne qui a fait l'enquête disait elle-même qu'elle était surprise d'être arrivée à sa propre conclusion. Voilà.
Ok.
Désolé. Musique.
Ne sois pas désolé.
Non mais je te vois regarder l'heure et dire hey, c'est tard.
C'est vrai.
SOS Gaillot, accoutré comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surtout d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux pieds poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce 3 juillet de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pote. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. Et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pas pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes, sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes. Comme des petits Che Guevara, ils ont pitché deux, trois pétards. Les meufs sont rentrés dans le tas, je jure qu'ils ont pas payé tard. Car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice. On entendait les chiens japper à travers le puits des sirènes, mais étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de pisse qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease. En version Hillbilly, quand le ciel s'est déchiré, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou, et ce fut terminé. Pas qu'on est rentré déçu, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution.
Et vous êtes bien sur Radio Canu dans la causerie 22-23 le dimanche sur 102.2 ou radiocanu.org. Et on vient d'écouter les Cowboys Fringants avec la manifestation. Et j'aime bien cette chanson parce qu'elle est pleine d'humour et de gentillesse comme souvent dans les Cowboys Fringants. Voilà, écoutez les Cowboys Fringants.
Et avec un peu de vérité. Un peu de vérité.
Voilà, c'est vrai. Donc Emma, tu voulais nous présenter une BD, si je ne me trompe pas.
Non, voilà. tu ne te trompes pas. On aime bien ça. Les BD à la causerie, on est très friands d'en lire et d'en découvrir. Et du coup, je voulais vous présenter ce soir donc une BD qui s'appelle Une chance sur un million. Alors les auteurs, c'est Cristina Duran et Miguel A. Guinerbu. Et donc c'est aux éditions d'Argo. C'est une petite BD qui fait environ 126 pages et qui se lit très facilement. Moi, je l'ai assez dévorée. Et du coup, en fait, c'est une BD autobiographique, c'est-à-dire que Cristina et Miguel, qui sont un couple, sont tous les deux des illustrateurs qui ont fait des choses séparément avant. On va découvrir dans cette BD un événement. Et ils ont décidé d'écrire sur cet événement, même si cet événement, on va voir ça, était difficile pour eux. Mais c'était une façon un peu d'exorciser, en fait, leur peine. Et de raconter ce moment difficile. Alors du coup, en fait, le sujet, en fait, c'est que ils ont une petite fille. Et l'auteur est à la maternité, même pas après son accouchement, en fait, la petite est emmenée en couveuse. Et ils vont rester pendant plus de 48 heures dans le flou, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'elle a des difficultés respiratoires, mais on n'en dit pas plus. Et au-delà de ces 48 heures se prolongent, enfin, commence à être une, deux semaines, où du coup, les deux parents restent se relayent à l'hôpital et ils n'en sont pas plus. Et du coup, voilà, on suit un peu déjà ces premiers mois à l'hôpital, parce que c'est des. Enfin, ça se compte en termes d'abord de semaines, mais aussi de mois. Et après, on suit jusqu'à à peu près. Elle fête sa première bougie, donc on suit à peu près pendant un an de leur vie. Et ce qui est assez intéressant, enfin, déjà, moi, j'aime beaucoup le graphisme, mais c'est surtout que c'est une BD à deux voix. Donc, en fait, on entend aussi bien lui. Que elle, et ils nous disent à chaque fois leur ressenti. Hein. Donc, on a des bulles, bien sûr, pour les dialogues, des bulles assez rondes, et on a un moment des bulles qui sont plutôt rectangulaires, et où on est dans leur ressenti. Mmh. Et donc déjà ça, enfin moi j'ai trouvé ça très bien de d'avoir leur ressenti personnel qui est parce qu'on bien sûr on a enfin ça aurait pu être un couple qui écrive et on a une espèce de ressenti commun, mais ça j'ai bien aimé que ça soit détaché au final parce qu'on se rend compte que même s'ils vivent la même chose, ils ont pas du tout les mêmes ressentis face à leur situation. Et du coup, j'ai trouvé ça déjà assez intéressant. Et du coup aussi, ce qui est, enfin, il y a des moments qui sont très très frappants. On avait déjà chroniqué, on avait lu ça avec Jean-Yves, une BD. Je sais pas si vous vous souvenez comment elle s'appelait sur
3 grammes,
ouais, sur cette jeune illustratrice aussi qui nous racontait son cancer de l'ovaire avec des illustrations vraiment magnifiques, avec ses pages complètement noires. Et là, c'est un peu la même idée. On a des jets d'encre, on a les auteurs à un moment qui sont en train de tomber. En fait, c'est très expressif. Donc voilà. Et donc en fait, on suit un peu la vie de ce couple à l'hôpital. On suit aussi la vie du couple à l'extérieur. On suit quand même, on continue à suivre leur vie en tant qu'auteur. Et donc enfin voilà, on va suivre leur péripétie pendant un an sur en fait donc la petite, au final, le comment ça s'appelle ? Le constat médical,
oui,
au
le
final,
diagnostic, ouais.
Le diagnostic, voilà, c'est ça, c'est le mot que je ne trouvais pas, le diagnostic tombe. En fait, elle a une déficience mentale et au final, on tombe aussi là-dessus sur la rééducation et tout ce qu'il va faire en fait pour essayer de la maintenir. Sachant qu'il y a des passages assez difficiles où ils sont réveillés en pleine nuit parce que au bout de quelques mois, ils arrivent quand même à la ramener chez eux. Et où ils sont réveillés en pleine nuit, où elle fait des crises d'épilepsie, donc sur un petit bébé qui a 6 mois. Et ce qui est aussi intéressant dans ce bouquin, c'est qu'ils sont confrontés du coup à tout l'univers médical. Et on voit que ce soit au niveau de l'administration, mais aussi enfin, au niveau de la perte d'information. Parce qu'au début, c'est plutôt une maladie un peu orpheline, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de réponse, les médecins non plus d'ailleurs. Ils sont là aussi, on voit le charabia médical qui est clair que pour les médecins, mais pas du tout à leur portée.
Qui est souvent ce qu'on reproche aux médecins, ouais. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent un truc, mais t'as encore moins compris une fois qu'ils t'ont expliqué que ce que tu te pensais avoir.
C'est ça, et du coup, ils partent dans de l'espèce de paranoïa, ils essayent de chercher un peu des solutions parallèles, mais du coup, qui sont critiquées par le corps médical, parce que du coup, ils partent dans des techniques de rééducation sur de la médecine assez douce et tout ça, de la médecine indienne, enfin des choses assez particulières. Et c'est assez intéressant. Et aussi, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette BD, je peux pas tout raconter, mais c'est qu'on a un beau passage sur la discrimination par handicap, parce qu'ils essayent au final de placer la petite dans une crèche. Et au début, ça va très bien. Ils sont là pour accepter. Puis bien sûr, la crèche est payante. Et au final, ils se rendent compte que avoir un enfant avec un déficit, ça pousse à engrainer plus de moyens, plus de personnes, enfin plus d'attention du personnel. Mais et ça, c'est pas gratuit.
Oui.
C'est faut y financer quoi. Mmh. Et du coup, ils leur font gentiment comprendre que c'est soit il faut payer plus, soit ils peuvent plus accueillir leur enfant. Et aussi, il y a tout un passage un peu sur l'intégration au niveau de la différence. Et c'est assez intéressant comme ils racontent ça, enfin que ce soit leur intégration à eux ou l'intégration de leur petite. Et aussi, on a tout un passage à la fin qui est sur la comparaison, vous savez, de l'éducation et des savoirs entre les parents, du style « Ah mais moi, mon petit, à 3 ans, il sait déjà lire et écrire, et moi, le mien, le mien, il sait ça. » Et en fait, eux, bien sûr, elle, à cet âge-là, elle arrive tout juste à se tenir debout. Donc du coup, ils sont confrontés à ça, et il y a une énorme critique là-dessus, et une énorme critique de la parentalité, que je trouvais super intéressante parce que elle est pas si en évidence que ça, c'est-à-dire qu'ils sont jamais trop dans la critique, hein. C'est comme le système hospitalier, administratif et financier des crèches. C'est à peine abordé, mais je pense que c'est assez fait exprès. Et du coup, c'est plus au niveau du ressenti. Et ça, on le ressent vachement, en fait, leur critique et leur perception de la parentalité. Et de la parentalité, on avait déjà un peu abordé le sujet la semaine dernière, avec un enfant, la semaine dernière, c'était plutôt des troubles du comportement, mais là, avec un enfant qui est
atteint de handicap.
De handicap. Et voilà, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé cette BD, donc c'est Une chance sur un million, de Christina Duran et Miguel Aguinerbu, et c'est aux éditions d'Argo.
Et ça se passe où en termes de temps, enfin de géographiquement parlant?
Géographiquement parlant, j'ai eu une incompréhension géographique, parce que tous les deux, donc ils sont illustrateurs dans le sud.
Ouais.
Mais géographiquement, alors en fait, les scènes sont pas spécialement situées. Il y a les noms d'hôpitaux, mais qui sont quand même assez flous.
En fait, il y a peut-être une volonté de le rendre, pas d'accuser une région ou pas, mais plutôt de le rendre en termes générique.
Plutôt. Ouais, générique. Ouais.
D'accord, ok. Non, mais c'était pour ça.
Voilà.
Bah, l'identification est d'autant plus à la rigueur facile. Si justement tu te limites pas à une...
Ouais, ouais. Mais c'était d'où le sens de ma question. Parce que des fois on lit des témoignages et du coup ils sont hyper... Et les gens se dédouanent en disant « Ouais, non mais ça c'est dans telle région ou dans tel endroit ou dans tel truc. »
Très accusateur.
Et là je me disais, si c'est le cas, c'est dommage. Et en fait, effectivement, si c'est plus flou...
Il y a des remerciements à la fin, mais je pense qu'il faut s'y connaître. Enfin, moi personnellement, les hôpitaux de France, tout ça, je n'ai pas la liste par cœur. Mais au final, moi j'aime bien l'idée qu'on sorte une BD là-dessus. Sur format BD, et j'aime bien qu'on puisse parler de sujets comme ça, comme on l'avait eu avec 3 grammes qui était sur un cancer de l'ovaire. Et parce que déjà, les BD sont toujours assez dénigrés, hein, vous savez, c'est un peu le truc.
C'est un sous-genre.
C'est un sous-genre où on n'aborde jamais des sujets sérieux et on a l'impression que c'est réservé aux enfants ou aux grands enfants ou aux adolescents, comme on aime les appeler. Mmh. Et en fait, non, et moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé aussi ce couple d'illustrateurs qui se sont dit, en fait, ça nous est arrivé, ok, c'est autobiographique, du coup on va parler de notre propre histoire, mais au final ça sera un peu notre façon d'exorciser ce qu'on a vécu. Et je me dis aussi, ça peut être sympa de savoir que ça existe pour des personnes qui sont confrontées aujourd'hui ou vont se sentir confrontées malheureusement à ce genre de choses. Moi je le conseille.
Ben, génial.
Il est plein d'espoir, plein d'optimisme, mais en même temps assez critique, donc assez réaliste.
Et de toute façon, on remettra les coordonnées sur le blog.
Et vu qu'il y a un truc avec un code barre, je suis sûr que tu l'as trouvé dans une bibliothèque, donc ça se trouve.
Ça se trouve très bien en bibliothèque municipale.
Bah yes.
Voilà.
Bon, bah nickel, merci. On passe à la musique.
Okay, bird. Yeah. Help! 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 Can you hear us? Hello! to me because you are my friend. I try, but sometimes I make mistakes. Nana says that we all make mistakes. Maybe we should scream more. Yes, bird, let's scream more. But they all seem so big. Maybe we should just jump. What if we fall from the bridge and then nobody can catch us? I don't know. Let's just see what happens. Come with me. Shall we do it together?
Et vous êtes bien de retour à la causerie sur Radio Canu 102.2. Et on vient d'écouter Lady and the Bird avec leur première chanson qui était Ballad of Lady and Bird.
Yes.
Voilà.
Ok, c'était vraiment bien. Très perturbant, mais très bien.
Très perturbant, ouais.
Et ben, on va terminer avec des brèves parce qu'on est vraiment à la bourre et on s'excuse auprès de l'émission suivante.
Ce sera les yeux grands ouverts et c'est juste après nous.
C'est ça. Alors, on va commencer les brèves. Moi, je voulais déjà commencer par les brèves en remerciant toutes celles et ceux qui sont passés au cafeton. Jeudi soir, le 30 octobre, c'était donc pour la soirée de soutien à Radio Canu. Merci beaucoup parce que ben ça a augmenté un peu la cagnotte
et ça fait chaud au cœur
et que ça fait du bien. Voilà, merci pour tout. On continue, hein, on va pas faire.
Alors vous savez qu'on est dans le mois, on s'installe partout, donc on va vous donner quelques dates. Mardi 4 novembre, les résistances à la guerre s'affichent. Donc c'est une exposition, initiative de l'Observatoire des armements, et ça se passe à la Maison des Passages, 44 rue Saint Georges dans le 5e, de 12h à 19h, et l'exposition est en place tout le mois de jusqu'au 18 novembre. Voilà.
On continue le jeudi 6 novembre avec un débat qui est proposé par les syndicats santé sociale et éducation de la CNT, et ce débat se nomme échec scolaire, échec social, et c'est une question, et ça se passera donc le jeudi 6 novembre à 19h au 44 rue Burdeau. C'était là où il y avait
au cafeton, quoi.
Au cafeton. Et qui est donc le local aussi de la CNT. Et c'est dans le premier arrondissement de Lyon. Voilà, Fab.
Le 7 novembre, vous aurez l'actualité de Bakounine. C'est un débat qui sera présenté par Philippe Pelletier, qui est membre de la Fédération anarchiste. Et c'est à 19h au lavoir public.
Et on continue toujours le vendredi 7. Vous allez avoir un programme vraiment chargé, en tout cas. C'est un débat qui est organisé par le groupe antifasciste Lyon et environ, c'est le GAL, et aussi les comités syndicalistes révolutionnaires. Et le débat s'appelle « Syndicalisme contre fascisme, quelle lutte antifasciste ?» C'est à 19h à la librairie La Griffe, dans le 7e.
Et vous pouvez retrouver tout ça sur lagriffe.net.
Yes. Et une dernière info encore, qui nous est parvenue par les sœurs de la perpétuelle indulgence, qui ont été invitées à la causerie il y a pas si longtemps que ça. Et elles ont fait passer une petite info, donc c'est lors de leur prochaine permanence qui aura lieu mercredi le 5 novembre, donc dans pas longtemps. Donc toujours au Forum Gay et Lesbien, 14 rue Romarin à Lyon, à partir de 20h30. En fait, il y aura des ateliers, enfin il y a un atelier de création, et le but c'est de créer des œuvres personnelles ou collectives sur le thème de la mémoire liée au VIH. Et ensuite, ces œuvres, elles iront compléter l'expo Fil de vie, fil de mémoire, et seront exposées le 1er décembre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. Voilà, message passé. Je crois qu'on va s'arrêter ici.
Ben oui, bon, au revoir à tous. Restez bien pour les yeux grands ouverts. C'est juste après nous. Il y aura sûrement un peu de bande continue, mais après il arrive.
Voilà. Et puis on se souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine. Oui. Bon courage aussi à ceux qui reprennent.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui reprennent.
Ouais. Hein.
Et même si on voulait pas faire de choses faciles, on va rendre un hommage avec la dernière chanson à Rémi Fraisse, qui est donc mort, tué par a priori les forces de l'ordre. Et c'est une chanson de la Parisienne Libérée qui a écrit ça en fait dans la nuit où on a appris le décès. Et ça s'appelle L'État, mais de quel droit ?
De quel droit ? Ben on vous souhaite une bonne semaine.
Bonne
bon courage à toutes et à tous. Ciao.
Vous serez responsable.
Oui, bien sûr aussi.
Cette nuit, je ne dors pas. J'entends des troncs qui craquent, des grenades, du fracas et des coups de matraque. Cette nuit, je suis fiévreuse. J'entends les arbres hurler au son des tronçonneuses, lourdement escortées. Une grande abatteuse avance lentement son bras. C'est une tombe qu'elle creuse au beau milieu d'un bois. L'État. Mais de quel droit ? Le droit des bétonneurs et des élus repus. Le droit des assoiffeurs quand le maïs a bu. D'une préfecture pressée de lancer des travaux. D'un conflit d'intérêts du maître d'œuvre en eau. Une grande abatteuse avance lentement son bras. C'est une tombe qu'elle creuse au beau milieu d'un bois. L'État. Mais de quel droit ? Dans mon rêve, au début, il y avait une forêt. Maintenant, je ne vois plus qu'un terrain désolé. Les engins mécaniques viennent retourner la terre. Leur cliquetis cynique laboure un cimetière. Une grande abatteuse avance lentement son bras. C'est une tombe qu'elle creuse au beau milieu d'un bois. L'État. Mais de quel droit ? Une grenade explose, la Gascogne, les coteaux, tout se métamorphose. Il pleut des lacrymos. Cette nuit, je suis en rage. La lune reste cachée quand les gendarmes chargent. Que s'est-il donc passé ? Une grande abatteuse avance lentement son bras. C'est une tombe qu'elle creuse au beau milieu d'un bois. L'État. Mais de quel droit ? Une nuit de vertige, perchée sur une cime. Au milieu des vestiges d'une futaie en ruine, le vent pousse un nuage. J'aperçois la vallée. À Sivens, le barrage ne se fera jamais.